おかしいおかしい、
bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce vendredi 4 septembre 2009, premier vendredi du mois de septembre, troisième montée de retenue pour vous dans cette tribune, à savoir, venez bien, sommet de la communauté pour le développement de l'Afrique australe SADC. La République démocratique du Congo reçoit pour la première fois ce sommet qui a débuté mercredi dernier avec les experts de ses pays membres en attendant l'arrivée des chefs d'État. Deuxième terme de notre débat, restructuration et assainissement de la diplomatie congolaise. Dans un communiqué de presse publié lundi dernier, le ministère des Affaires étrangères dresse un bilan amer du dossier de certains consuls de la RDC à travers le monde. Grève des médecins dans les hôpitaux publics de Kinshasa, c'est notre dernier terme de la tribune de ce soir. Pour en parler avec moi dans ce studio, trois confrères, il s'agit de Paul Gakissé, directeur des informations à la radio-télévision Sango Malamu, émettant depuis Kinshasa, Rombo Taba, journaliste au quotidien L'Observateur, journal paraissant à Kinshasa, et Christophe Malola, directeur de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Guémena. Il intervient depuis la province de l'Équateur. Avant d'entrer dans le vif même du débat de ce soir, place d'abord à la revue de presse avec Samuel Kachak pour voir comment les journaux quinois ont analysé les trois thèmes retenus pour vous ce soir.
Bonsoir. Par rapport au sujet retenu pour cette revue de presse, où évoquant la tenue à Kinshasa du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, affirme que ces assises se pencheront entre autres sur la question du financement du terrorisme. De son côté, l'Observateur affirme que plusieurs points sont au centre de ces discussions. Il s'agit entre autres de la consolidation de la zone de libre-échange, de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, de l'impact de la crise financière internationale dans les pays membres, de l'intégration énergétique et la création d'une zone monétaire unique, ainsi que de la circulation des personnes et des biens dans la sous-région. Sur un autre registre, Ouro, parlant de l'assainissement dans la diplomatie congolaise, annonce l'annulation de toutes les lettres de provision accordées aux 69 consuls honoraires. Ce qui est, selon le ministre des Affaires étrangères, Alexis Tambwe Mwamba, une opération de remise à l'ordre dans la diplomatie afin de rétablir la crédibilité du pays, note la référence plus. Un autre sujet abordé cette semaine dans la presse, c'est la grève des médecins déclenchée depuis lundi dernier à Kinshasa. À ce sujet, le Phare parle d'un week-end décisif, car un sursis a été accordé au gouvernement par les différents syndicats. Grève des médecins et ajout encore des morts à compter, titre le potentiel. Ce journal mentionne que les blouses blanches ont rangé leurs bistouris dans les tiroirs. Une situation préoccupante qui risque d'entraîner un grand malaise social.
Merci Samuel Kachak pour cette revue des presse. Paul Gakissé, vous êtes directeur des informations à la radio-télévision Sango Malamu. Quelle analyse faites-vous de cette revue de presse que nous venons de suivre?
Les événements d'actualité, notamment la SADC, soit pour une que ça la une, c'est un sommet très très important. Mais la SADC vole un peu la vedette à la grève des médecins, qui en fait est une crise grave pour un pays qui se veut un État. Donc la grève des médecins ne doit pas être occultée par le sommet de la SADC, quel que soit le succès que cela pourra engager pour notre pays.
Kombo Taba, vous êtes journaliste au quotidien L'Observateur, c'est un journal parissant à Kinshasa. Parmi les trois thèmes sur lesquels nous allons débattre ce soir dans notre tribu, y a-t-il un autre sujet qui a été aussi d'actualité durant la semaine?
Le point de presse est extraordinaire, si je peux m'exprimer ici, le ministre de la Communication qui a informé le public sur des attaques dont auraient été victimes certains ministres du gouvernement et particulièrement les anciens du MLC. Ce point d'actualité a aussi attiré l'attention de des journaux parisiens qui disent ça.
Christelle Malula, vous intervenez à partir de la province de l'Équateur. Vous êtes directeur de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Guéména. C'est quoi l'actualité aujourd'hui dans votre province?
L'actualité chez nous reste dominée par l'ouverture de l'Assemblée provinciale. Il y a aussi la remise à question de la procédure sur la mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba, sur la demande de Moreno Ocampo. Donc je crois que ce sont deux points d'actualité chez nous que vous n'avez pas inscrits à l'ordre du jour.
Merci Christelle Malula. Actualité oblige. Commençons notre débat par cette information sur Jean-Pierre Bemba. Affaire Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale vient de sursoir la décision des libertés provisoires de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba. La chambre d'appel de la CPI vient en effet d'accorder un effet suspensif à l'appel du procureur contre la décision de la mise en liberté sous condition de Jean-Pierre Bemba Gombo. Les juges de la CPI vont donc examiner les arguments du procureur Moreno avant de confirmer ou d'infirmer la décision de la mise en liberté provisoire. Des explications fournies hier à Kinshasa par le chargé des communications de la Cour pénale internationale. En RDC, pour rappel, Jean-Pierre Bemba a été arrêté par les autorités belges le 24 mai 2008 suite à un mandat d'arrêt délivré par la chambre préliminaire et a été transféré à la Cour le 10 juillet 2008. Il est accusé en tant que chapitre de deux crimes contre l'humanité, viol et meurtre, et de trois crimes de guerre, viol, meurtre et pillage commis dans le contexte d'un conflit armé qui aurait eu lieu en République centrafricaine du 26 octobre 2002 au 15 mars 2003 à Rombo Taba. Comment comprendre cette nouvelle décision de la Cour pénale internationale?
Bon, moi, personnellement, je n'ai pas été surpris. Bon, Moreno Ocampo est en train de jouer son rôle de procureur. Mais ce qui est un peu curieux dans cette affaire-là, c'est de constater que Ocampo, ça charne un peu trop sur Jean-Pierre Bemba, qui n'est qu'un acteur incidentiel dans ce conflit, alors que Bozizé et Ange-Félix Patassé, qui étaient les vrais acteurs, les principaux acteurs de ce conflit, courent la rue et ils ne font même pas l'objet de mandat. Ah, c'est ça qui est un peu curieux dans cette position de Moreno Ocampo. C'est qui se croit qu'il y a une dissurance dans ce procès-là, dans l'attitude de Moreno Ocampo.
Paul Dekeche, vous non plus, vous n'avez pas été surpris par cette décision?
Bon, mais cette décision, elle est évidente. C'est une procédure judiciaire. On n'a pas à trembler, on n'a pas à dramatiser. Moreno Ocampo va présenter ses arguments et puis la Cour va décider. Quand nous disons que l'appel de Ocampo est suspensif de la décision, ça ne signifie pas que plus jamais Bemba aura la liberté provisoire. C'est simplement parce que peut-être que les dates prévues du 7 et 14 pour entendre le pays qui était sollicité pour que Bemba soit accueilli sur leur sol, on va peut-être reporter ces séances, mais une chose est restée sûre, la liberté provisoire a été prononcée, et puis les avocats de Bemba vont se battre face au ministère public représenté par le procureur général Moreno Ocampo. Bon, si le juge estime que cela ne peut pas empêcher la liberté provisoire, Bemba aura la liberté provisoire. Il ne faut pas dramatiser. Mais aussi, vous savez, il ne faut pas trop politiser le dossier Bemba. Ça, c'est le deuxième point. Nous avons tendance, ici au Congo, de politiser le dossier Bemba. Donc, Bemba est devant un tribunal. Il y a des juges, ce sont des juges très très sérieux. Bemba, les charges qui pèsent contre lui sont tellement lourdes que moi, je me dis, c'est cruel. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de liberté provisoire.
Christelle Malula, vous intervenez à partir de la province de l'Équateur. Vous, comment vous analysez cette nouvelle décision de la CPI?
Très très bizarre, parce que Moreno joue le rôle du ministère public avec comme mission de constater le fait et de le soumettre à qui de droit. C'est ce qu'il a fait justement avec Jean-Pierre Bemba, qui du moins n'a jamais été inculpé jusqu'à nos jours. C'est du moins ce que nous devons retenir. Et la liberté provisoire est un droit reconnu, surtout quand on sait que la fuite du prévenu n'est pas à craindre. Le tribunal, à ce que je sache, reste souverain. Nous avons encore confiance à la Cour. Et si Moreno tient vraiment que ce dossier soit clarifié, il faudra, comme l'a dit le conseil précédent, il faudra qu'on fasse appel à tous les acteurs centrafricains. qui sont en train de bâtir librement leurs occupations. Jean-Pierre Bemba qui n'a jamais foulé ses pieds en Centrafrique, qui n'a donné aucun commandement. Et Moreno, jusqu'ici, n'a jamais prouvé à la face du public que Jean-Pierre Bemba était commanditeur de tout ce qui s'est passé en Centrafrique. Alors, c'est vraiment un acharnement qui reste à désirer. Et nous nous posons la question de savoir s'il n'y a pas demain.
Merci Christa. Premier terme de notre débat de ce soir, 29e sommet de la communauté pour le développement de l'Afrique australe SADC. La République démocratique du Congo reçoit pour la première fois ce sommet qui a débuté mercredi dernier avec les experts de ces pays membres en attendant l'arrivée des chefs d'État. Les chefs d'État et des gouvernements des 15 pays membres de cette organisation régionale sont attendus en RDC à cet effet. Une première depuis l'adhésion de la RDC au sein de la SADC en 1997. Quels sont les points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre? Clément Tshibanda, ministre congolais de la coopération internationale et régionale, répond à cette question au micro de José Deschamps Minga.
Au cours d'un sommet ordinaire, l'occasion est offerte aux chefs de l'État de faire le point sur l'état de la communauté à tous égards, sur le plan politique et de la sécurité, sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Ils évaluent les progrès qui sont accomplis vers la réalisation des objectifs d'intégration régionale. Ils identifient les difficultés rencontrées, ils lèvent des options pour lever ces difficultés. C'est à cet exercice que nos chefs d'État vont se livrer après que le chemin ait été balisé par les experts qui se réunissent à partir du 2 au 4, suivi du Conseil des ministres qui lui se tiendra le 5 et le 6. Les chefs d'État se réunissant le 7 et le 8. Sur le plan politique, bien entendu, il sera question de faire l'état de la situation concernant les situations qui hier étaient source de préoccupation, notamment la situation à l'est de la RDC, où heureusement tout le monde se rend compte que la situation s'est fortement améliorée et s'est stabilisée. Il y a le dossier de Madagascar, le dossier du Zimbabwe et il y a le dossier du Lesotho. Sur ces différents dossiers, les anciens chefs d'État qui sont médiateurs pour le compte de la SADC, après avoir fait rapport à l'organe de la SADC chargé des questions politiques de la défense et de la sécurité, seront à la disposition des chefs d'État pour tout complément d'information que ce dernier souhaiterait avoir.
Il faut signaler que les travaux du 29e sommet ont connu une trêve ce vendredi avant-midi. Pas d'activité observée au site du Grand Hôtel de Kinshasa où se tiennent les concertations entre les experts des 15 pays membres. Toutefois, le protocole signé à la Radio Kapi l'a tenu ce vendredi de la plénière des experts pour adopter le rapport final des travaux débutés depuis le 2 septembre dernier. Ceci en prévision du Conseil des ministres des pays de la SADC qui se tiendra demain ici à Kinshasa. En attendant, quelques délégations des ministres des États membres séjournent déjà dans la capitale congolaise. Paul Diakité, directeur des informations à Sangoumalamu, comment avez-vous accueilli cet événement, la première en RDC?
Non, ce n'est pas la première en RDC.
Le sommet de la SADC, c'est la
tout
première.
Tout à fait, la SADC, c'est la première fois. Il faut dire que le pays a déjà accueilli depuis longtemps de grands sommets et que cela a fait beaucoup de temps avant qu'on puisse accueillir le sommet.
On parle de la SADC.
Tout à fait. Mais ça prouve que le pays gagne du poids parce que ça fait longtemps qu'on n'a jamais eu de telles rencontres. La dernière, c'était la CIAC. Et je pense qu'il faut capitaliser. C'est depuis longtemps que nous avons dit que notre diplomatie est malade, qu'il n'y a pas, on ne vend pas l'image du pays. Et je crois que maintenant, c'est une preuve que notre diplomatie a acquis des muscles et qu'elle avance. Toutefois, il faudra mettre un bémol. On n'a pas compris, nous, en tant que journalistes, que jusqu'au jour du début de travaux des experts, aucun journaliste n'est accrédité. Mais également, c'est comme si nous, la presse, on ne fait pas allusion au contre-sommet qui va commencer demain à Samba, un contre-sommet de la SADC qui va réunir les différentes forces vives de ces pays-là.
Il faudra
que nous, en tant que médias, qu'on fasse ce travail. Il y a les sommets de la SADC officiels avec le chef d'État, mais aussi le contre-sommet, qui parfois est plus proche de la population que le sommet de la SADC, qui est interprété d'État qui discutent entre eux, le sou et dans tel sommet, ma penseur, c'est que les résolutions puissent rencontrer les préoccupations des peuples de chaque pays. Donc chaque pays représenté au niveau de la SADC, ça c'est un et de deux. Il faudra que le peuple se retrouve en ces sommets, en ces résolutions. Hein, parce que c'est pas que quand les chefs de l'État sont là et quelque chose au marché, donc il faudra qu'on tienne compte également de tout ça. Et c'est en ce moment-là qu'on parlera d'un véritable succès du sommet. Et au-delà de la SADC, nous attendons que le pays soit capable d'organiser de grands rendez-vous. Et pourquoi pas, moi j'irai plus loin. Nous attendons ce que le pays organise un jour la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça prouverait qu'en tout cas on a avancé, parce qu'on prépare les tels sommets, il faut ranger les cités, les hôtels. Alors ça crée aussi de l'engouement et le pays gagne en organisant les telles rencontres.
Le pays gagne quoi concrètement?
Oh, mais non, mais quand
la crédibilité.
La crédibilité externe, mais également l'image interne se modifie, parce qu'il faut changer les routes, il faut embellir ceci ou cela, il faut créer, construire des hôtels qui vont être.
Est-ce qu'il faut embellir les routes lorsqu'on organise un sommet?
Non, que ce sommet soit le souffle qui va aider à ce que le pays soit capable d'organiser d'autres sommets, d'autres rencontres. Et évidemment, en organisant des telles rencontres, il faut que des infrastructures. Et encore les infrastructures, c'est le pays qui en bénéficie. Et on avance. Voilà.
Tombo Tabar, journaliste au quotidien L'Observateur, nous venons de suivre le ministre de la coopération internationale et régionale, Raymond Tshibanda. Il a évoqué quelques points inscrits à l'ordre du jour pour ce sommet de la SADC. Il a entre autres faire le point sur les États qui constituent la SADC sur le plan politique, sécuritaire, économique et social. À votre avis, est-ce que ces points sont-ils nécessaires?
Personnellement, je ne suis pas très intéressé par les forums que les Africains tiennent. De l'OIA, de l'IA, non, c'est ils emmagasinent toujours des résolutions. Et comme l'a dit Paul Dessé, nous, les peuples, ce sont les résultats qui nous intéressent. Vous voyez, s'il faut jeter un regard rétrospectif, il y a la communauté économique des États de l'Afrique centrale, beaucoup de résolutions, la conférence sur le développement et la sécurité des pays des grands, là, tout ça, c'est des résolutions, mais qui sont
les
mortes. C'est ce qui fait le doute. Dans certains esprits. Il faut voir sur le terrain, est-ce que tous ces pays-là, quel est aujourd'hui leur PIB, quel est leur niveau de développement. Et lorsque on voit ce qui se passe sur le terrain, sur le plan de la démocratie, du respect des droits de l'homme, on se pose des questions si tout ça, ce n'est pas du temps perdu, en tout cas.
Mais toutes ces questions sont évoquées lors de ce sommet.
Oui, mais évoquées, bien sûr, il y aura des résolutions qui vont être prises, et ça, nous devons nous attendre. Mais le problème, c'est sur le terrain. Qu'est-ce que nous, les Congolais, par exemple, nous pouvons attendre de post-sommet de la SADC à Kinshasa? Je doute de tous ces sommets-là, je doute.
Vous êtes un peu pessimiste, quoi?
Pragmatique, pas pessimiste, mais je m'imagine si, en certaines circonstances, dans l'avenir, nous pouvions nous retrouver ici, je vous poserai la question de savoir et regarder les résolutions qui avaient été prises autrefois lors du sommet de la SADC. Qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui?
Merci, Rombo Tabat. Justin Maloula, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de ce sommet dans la pacification de l'Est du pays?
En tout cas, je commence par féliciter les confrères qui viennent de me précéder là tout de suite. Ce sont les problèmes du fond avant que je ne réponde à cette question. Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de la SADC? Quand il s'agit de l'exploitation commune du pétrole, l'Angola tire les draps de son côté. Ce n'est pas le problème de la SADC. Alors qu'on parle du développement, le développement, ce n'est pas l'économie. Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre? Moi, je pense que c'est depuis toujours qu'il s'est posé un problème réel de visibilité dans cette organisation. Il faudra vraiment qu'on sache que la SADC intervient, parce que j'ai suivi le ministre tout à l'heure. Il a évoqué un certain nombre de problèmes. Il a parlé des problèmes d'ordre politique, sécuritaire, économique, social, des difficultés rencontrées. Mais sur le plan social, il venait de les constater à peine qu'ils sont en réunion là. Voilà le médecin qui ont claqué à la porte. Le social, la famille, l'économie. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les Africains Après, les Congolais ont une certaine facilité d'entrer en Afrique du Sud, d'entrer en Angola, pour, dans le cadre économique. Moi, je pense que la SADC a plus l'accès sur la sécurité, et la sécurité qu'elle ne règle tout ça. Bon, donc, moi, là, je ne crois pas comme l'autre père, comme l'autre confrère, à toutes ces organisations qui ne font que dilapider de l'argent inutilement. Donc, on ne voit rien de concret dans tout ce qu'ils font. Des résolutions, des résolutions. Mais si le plan pragmatique, il n'y a rien de concret.
Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même un progrès que les pays se réunissent pour parler des problèmes qui concernent les pays de l'Afrique australe?
Non, c'est important qu'ils se réunissent. Écoutez, moi je le dis tout de suite que s'ils se réunissaient, on ne récuse pas de réunions, mais les problèmes de visibilité, qu'est-ce que ces réunions nous apportent? C'est ça le problème.
Attendons peut-être la fin de la réunion pour voir. Attendons peut-être la fin de la réunion pour voir.
C'est le quatrième sommet.
Le premier de la SADC en RDC.
En RDC, oui, mais c'est le quatrième.
On parle du 20e sommet de la SADC.
Ah oui, c'est le 20e, c'est qu'on a eu autant de résolutions. Ce n'est pas seulement ce sommet, parce que c'est en République démocratique du Congo, que les mains vont tomber du ciel.
Une réaction par rapport au propos de Christian Malouna?
Non, pas réagir par rapport à ce propos. Peut-être que je vais enchaîner, mais pas aborder la même ligne que lui.
Mm-hmm.
Bon, même sur le 20e sommet, nous ne sommes membres seulement depuis 98.
97.
97 plutôt. Non, fin 97, 98, c'était un coup de colère de M. Laurent Désiré Kabila, qui en fait voulait se débarrasser de la francophonie pour adhérer à un groupe beaucoup plus anglophone. Je pense que dans ces villages planétaires dans lesquels nous nous dirigeons, chaque pays est souverain de choisir dans quel groupement régional veut-il appartenir. Et puis, ce n'est pas aussi défendu que nous soyons à la fois membres de CEMAT et membres de SADC. Les États-Unis sont à la fois membres de l'OEA, mais ils sont aussi membres de l'OTAN avec les pays européens. Donc, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème réside au niveau du poids. Qu'est-ce que nous pesons par rapport à ces pays-là? Et je me rends compte qu'au niveau de la SADC, comme aussi de la CEMAC, notre pays est une puissance géostratégique. Mais il va falloir un bon leadership pour parler face à face avec le Jacob Zuma ou avec le président tanzanien ou kenyan, qui sont des pays économiquement très forts. Je crois qu'il faudra que ce débat-là soit posé. Où nous devons être? Est-ce que sommes-nous un pays anglophone ou un pays francophone? Alors, où nous pouvons peser notre poids? Où on peut vraiment bien exister? Mais ce n'est pas défendu d'être ici et là-bas. Mais pourvu que cette présence ne soit pas une absence passive.
Merci, Paul Jacquet. C'est Rombo, un dernier mot par rapport à ce thème?
Oui, par rapport à ce thème, c'est ça. Je me dis, le problème de fond ici, c'est que, effectivement, les chefs d'État de la sous-région ont pris conscience de leurs faiblesses et ils veulent réunir leurs efforts. Mais est-il que ces efforts-là doivent d'abord partir de l'intérieur de leur propre nation? Tant qu'à ce niveau-là, il y a des perturbations, il y a la mal-gouvernance, moi je pense que lorsqu'ils se réunissent, on ne peut pas attendre de. Or, dans le cas d'espèce ici, c'est rare que les sommets puissent prendre des mesures coercitives pour dire que si nous constatons tel dérapage, le pays peut faire l'objet d'une telle sanction, tout ça. Il faut d'abord qu'on commence par mettre de l'ordre à l'intérieur de chacun de ces pays-là. Parce que quand on constate que dans certains, par exemple, c'est la démocratie, dans d'autres, il y a encore des murs qui croient qu'ils sont au pouvoir éternellement, alors moi, dans ce mélange, espérons toujours.
Et ça va porter des fruits positifs. Deuxième thème de notre débat de ce soir, structuration et assainissement de la diplomatie congolaise. Dans un communiqué de presse publié lundi dernier, le ministère des Affaires étrangères dresse un bilan amer des dossiers de certains consuls de la RDC à travers le monde. poursuivant la restructuration et l'assainissement de la diplomatie congolaise et après examen approfondi des dossiers des 85 consuls honoraires de la RDC. À travers le monde, le ministère des Affaires étrangères fait un constat amer de cette diplomatie. Il a ainsi annulé toutes les lettres de provision accordées aux 69 candidats consuls honoraires sur les 85 qu'elle comptait et leur a immédiatement retiré le mandat qui leur avait été conseillé. Pour le ministre des Affaires étrangères, il s'agit d'une opération de remise de l'ordre dans la diplomatie en vue de rétablir la crédibilité du pays. Alexis Tambwe-Mwamba est joint au téléphone par Basile Bakumbane.
Lorsque vous nommez quelqu'un comme consul honoraire, il faut que le pays où il est nommé puisse l'accepter en tant que tel. Alors ce qui est arrivé dans la situation de notre pays, c'est que parfois on a nommé 4 ou 5 consuls honoraires dans une seule ville. Finalement, ce sont les administrations des pays étrangers qui ont commencé à nous faire la leçon en refusant purement et simplement les accréditations de ces personnes. Et après plusieurs mois d'enquête, je suis arrivé effectivement à la conclusion que de l'ensemble de tous ceux qui avaient été nommés sans précaution nécessaire, il n'existe que 14. J'ai fait rapport au Conseil des ministres et j'ai informé les pays concernés que nous avons retiré le mandat à ces personnes. Donc j'ai décidé de remettre de l'ordre dans ce secteur.
Christophe Aloula, directeur de Canal Congo Télévision et Radio Liberté et Guémena, vous intervenez à partir de la province de l'Équateur. Quelle lecture faites-vous de ce constat du ministre Alexis Tambwe-Mwamba?
Oui, je reviens une fois de plus à l'administration anarchique de notre pays. Je pense que je vais suivre le ministre Alexis Tambwe-Mwamba. Il y a eu des personnes qui ont été accréditées. Et d'emblée, on va les supprimer. Peut-être que le pays prendra encore des responsabilités pour les ramener. Mais ce qui reste à savoir, comment ces personnalités se sont retrouvées dans ce pays? Et sur base de quelle administration? Moi, je pense que notre pays doit utiliser plus des technocrates plutôt que des arrivistes dans l'administration de l'État. Cette erreur est trop grave et nous resterons toujours devant le gros bébé. Moi, je pense que des solutions comme ça devraient être envisagées au préalable plutôt que de créer, comme je l'ai dit la fois passée, de malaise social inutile. La fois passée, nous avons parlé de l'assainissement du secteur public, de l'administration publique. On a envoyé des gens à la retraite sans que c'est la même puisse bénéficier de quoi que ce soit. Où on a révoqué les uns, ça qui est la procédure normale. Mais aujourd'hui, encore, on entre dans un secteur delta qui est la diplomatie congolaise. Je voudrais profiter une fois pour toutes, avec votre autorisation, pour dire que il faut vous retrouver en dehors de notre pays pour voir combien nos diplomates sont en train de souffrir. Il y en a dans le maison de nos ambassades sont payés par des personnalités autres. Ce sont les religieux quand ils vont animer des émissions là-bas, quand ils vont en séminaire dans le pays étranger, ils payent de factures pour la location des loyers. Les ambassadeurs, avec tout ce qui les entoure, sont payés depuis plusieurs mois, en dépit de ce malheur. Donc, on vient les assainir. Notre pays est malade, vraiment malade. Et il faut beaucoup d'efforts pour en sortir.
Tombo Otaba, vous êtes aussi d'avis qu'il faut remettre de l'ordre dans la diplomatie congolaise, comme le dit le ministre des Affaires étrangères.
Absolument. Moi, je ne sais pas si un esprit sensé peut s'opposer à une telle démarche. Le problème ici, il faut absolument que lorsqu'il y a un malaise quelque part, y mettre fin. Le ministre Alexis Tambwe-Mwamba mérite des félicitations pour son action. Je pense que nous devons l'encourager à aller de l'avant. Et au lieu de s'arrêter au niveau des consuls qui ne sont que des simples figurants, moi je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, au niveau des ambassades. Vous savez, c'est depuis l'époque de la Deuxième République qu'on fait toujours le même constat. La conférence des ambassadeurs ici, on fait toujours le même constat. Et comme je venais de le dire, ce qui concerne le sommet des chefs d'État, de la SADC, il y a eu toujours des résolutions. Il y a un moment donné, je me souviens à l'époque du conseil exécutif, on avait pris la décision de regrouper ces ambassades, disons, de réduire le nombre d'ambassades de nos pères à l'extérieur. Mm-hmm. Mais, curieusement, Mobutu est parti, jusqu'à aujourd'hui, 12 ans après, on n'arrive pas à matérialiser, à concrétiser cette résolution. Je pense l'année dernière au ministère des Affaires étrangères, il s'est tenu une conférence de corps diplomatique et on est arrivé aux mêmes résolutions. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas. On dirait qu'il y a des pesanteurs qui empêchent le ministre des Affaires étrangères d'exécuter ses décisions. Pourtant, prise par consensus. Alors, vous auriez dû profiter de cette occasion pour poser au ministère des Affaires étrangères ce qui l'empêche aujourd'hui d'exécuter cette décision de la réduction de nos postes diplomatiques. Et pourtant, tous ces gens-là se plaignent de leurs conditions de vie là-bas. Et vraiment, ce sont des clochards. Alors, mais je pense qu'il est temps. Et le gouvernement actuel, c'est un gouvernement mis en place après les élections. Moi, je ne vois pas les raisons pour lesquelles le ministre des Affaires étrangères peut persévérer aujourd'hui pour mettre en application les résolutions qui ont été prises pour l'assainissement de ce secteur-là. Il ne faut pas qu'il s'arrête seulement au niveau des consuls, mais il faut qu'il aille vraiment jusqu'au bout. Si le gouvernement doit mettre des moyens conséquents pour le rapatriement de tous ces personnels-là qui vivent dans des conditions humaine à l'extérieur, moi je pense que c'est tout le monde qui va applaudir.
Paul Jacquissé, à votre avis, quel peut être l'impact de cet assainissement et restauration de la diplomatie congolaise pour sa renonce?
J'ai peur que qu'il n'y ait rien, j'ai peur que ce soit négatif plus tard. C'est pour ça que je ne me permettrai pas de féliciter le ministre. Je pense qu'un ministre qui prend de telles résolutions ne fait que son travail, parce que si on doit se mettre à féliciter les ministres, il risque de devenir des super, quoi, qui sont extraordinaires. Les États-Unis, madame, c'est un grand pays puissant, mais n'a pas d'ambassadeur dans tous les pays du monde. Je crois que c'est quand même une bonne chose que de chercher où mettre les consuls, où mettre les ambassadeurs. Ça peut paraître un long paradoxal, parce qu'on disait que notre diplomatie est inexistante, il faut une divisibilité, et puis on doit réduire les consuls. Ça peut paraître paradoxal. Cependant, là où le problème réside, c'est que ce que le ministre Alexandre Moma vient de faire, est-ce que ça ne sera pas révisité comme on cherche à révisiter les ordonnances du chef de l'État? Ce que le ministre vient de faire, madame, est-ce que pensez-vous, je ne dis pas que c'est pas ça, parce qu'il y a des preuves qui se fait proprement et honnêtement. Est-ce que ces gens qui sont nommés ou qui sont nommés consuls, est-ce qu'ils répondent au tissus qu'il faut pour un consul? Est-ce que ce ne sont pas des membres des partis politiques, des applaudisseurs qu'on récompense? C'est ça l'ensemble des problèmes. Mais également, est-ce que pour nommer les consuls, revoir la carte diplomatique du pays, savoir où placer, dans quelle zone placer les ambassadeurs ou les consuls, est-ce que c'est seulement un travail d'un cabinet ministériel? Est-ce que l'Assemblée nationale ne peut pas être associée à ces travaux? C'est quand même un travail très sérieux, c'est quand même un travail vital pour le pays. Ouais. Donc, je ne félicite pas, j'observe ce que ça va donner comme conséquence, parce que si nous sommes dans un pays où quand Rombo met en place comme ministre, tout ce que moi j'ai proposé, j'ai fait, si c'était bon, Rombo va rejeter cela. Alors, est-ce que ce ministère d'affaires étrangères, doit-on continuer jusqu'au jour de faire confiance lorsque nous savons que ce ministère demande aux Congolais ayant des passeports déjà de leur pays d'acheter de nouveaux passeports? Alors, tous ces éléments mis ensemble, le refrain est un peu indigeste et il y a une cacophonie musicale de tout ce que qui peut sortir des affaires étrangères. C'est pour ça que je me réserve de féliciter cette dernière décision. Oui, un peu là, oui.
Alors, Rombo, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on passe au troisième thème. Rapidement, en un mot.
Non, Thierry, je voulais tout simplement savoir que si vous avez cette opportunité-là d'interviewer le ministre, il faut aller jusqu'au bout. Il passe à lui, par exemple, poser la question au ministre, la question de savoir comment ça se passe généralement dans des pays civilisés, comment on nomme les consul, quoi. Ça se fait comment? Parce que nous, en RDC, nous ne devons pas nous considérer comme un pays extraterrestre. Dans ce domaine-là, il y a des règles que nous ne pouvons pas modifier. C'est ça un peu le côté ridicule de notre pays. On croit que nous ne sommes pas dans ce monde, sur cette terre des hommes.
Merci Rombo, on n'hésitera pas de poser cette question au ministre Alexis Thambwe-Mwamba. Grève des médecins dans les hôpitaux publics de Kinshasa, c'est notre dernier thème de la tribune de ce soir. Nous sommes au cinquième jour de la grève des médecins des institutions publiques de Kinshasa. Les médecins revendiquent l'application de certains points contenus dans les statuts spécifiques des médecins et les réajustements des salaires et primes. Dans leur cahier des charges, les médecins réclament également l'exécution des accords signés entre le gouvernement et leur syndicat, le Sinamed, en date du 20 août 2008. Suivons ce reportage de Mimi Ngumba qui a fait le tour des institutions concernées par ce mouvement de grève.
Dans tous les hôpitaux publics visités, la situation semble normale, si pas habituelle, parce que les médecins sont présents et même en blouse, mais ne consultent pas au cabinet. Cela, une disposition prise pour la première étape de ce mouvement qui ira jusqu'au 7 septembre prochain. Cependant, un service minimum est assuré. Ce dernier prévoit la réception des urgences seulement et le suivi correct de malades hospitalisés. Se référant aux documents légaux, le syndicat national de médecins déclare suivre la démarche recommandée, c'est-à-dire si rien n'est fait par le gouvernement en dehors de 7 jours de grève simple, ils entameront celle dite sèche. Comme on peut s'y attendre, les premières victimes de cette grève restent les patients.
Merci Mimi pour ce reportage. On n'a plus beaucoup de temps. Je vous demanderai d'être vraiment concis dans vos réponses. Ce n'est quand même pas la première fois que l'on assiste à ce mouvement de grève et promesses du gouvernement. La question qu'on se pose, c'est que faire pour ne plus retomber dans ce cercle vicieux Rombo Tabar?
Mais moi, je pense que chaque pays est bien organisé, fonctionne sur base d'un budget. Je pense que chaque année, on vote un budget à l'Assemblée nationale et dans ce budget-là, il y a des rubriques. Dans ce qui concerne, par exemple, les salaires, moi, je pense que ça ne devrait pas constituer un problème lorsque, même vous, à la maison, lorsque vous avez une petite bonne, là. Je pense que la première chose à la fin du mois, lorsque vous approchez à la fin du mois, la préoccupation, c'est de réunir les moyens nécessaires pour que vous payiez votre bonne. Mais alors, moi, effectivement, c'est récurrent. Il n'y a pas que seulement le problème des médecins. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de la rentrée scolaire. Les enseignants ne sont pas payés. Et même parmi eux qui c'est là, il y en a qui travaillent qui ne sont pas payés. Alors, moi, je pense que la question fondamentale, c'est de savoir est-ce que les gens, quand ils sont nommés dans le gouvernement, sont-ils conscients de la responsabilité qui les incombe? Sinon, moi, je ne m'imagine pas qu'un secteur aussi stratégique que la santé, l'enseignement, soit abandonné. Et je pense que là aussi, il faudra que les médecins et non-médecins, dans leurs revendications, mettent aussi l'accent sur l'équipement des hôpitaux. Vous savez qu'il y a beaucoup de médecins congolais qui sont appréciés à l'extérieur. Ce ne sont pas des compétences qui nous manquent, mais ces gens-là, c'est difficile parce qu'ils sont payés modiquement et parce qu'il y en a qui ne se retrouvent pas après leurs études. Les équipements sont démodés et c'est ça le problème. Donc, je pense qu'ici, il n'y a pas une autre solution qui est de demander au gouvernement de s'assumer. Ou on est capable de faire quelque chose, ou on ne l'est pas. Ailleurs, on démissionne quand on trouve que vraiment on n'est pas à mesure de remplir les convenables de sa mission.
Oui, Paul Jacquet, c'est directeur des informations à la radio-télévision Sango Malamu. Est-ce qu'on peut parler de manque de volonté ou de manque de moyens du gouvernement?
Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est simplement, pas les responsabilités, mais c'est simplement parce qu'on n'a pas été préparé à gérer un pays. Voilà comment je peux le dire. Parce que gouverner, c'est prévoir, madame. À quoi a servi, ou ont servi, les deux descentes très médiatisées du Premier ministre au Kinshasa Université, à quoi cela a servi? À quoi servi toutes les rencontres visant à assainir le milieu sanitaire? Pourquoi le gouvernement donne toujours l'impression d'agir sous pression, d'agir toujours après? Les étudiants bougent, on agit. Les enseignants grèvent, on négocie.
les médecins ont fait le cahier des charges, on a attendu qu'ils déclenchent la grève pour agir. Ça, c'est totalement inacceptable et totalement incompréhensible pour un gouvernement qui se veut le gouvernement du peuple. Ce peuple-là, qui n'a pas l'argent pour aller se faire soigner dans des centres IP, qui n'a que X moyens pour se faire soigner. Et là, les médecins grèvent. Je crois que la démission serait la chose la plus normale et la plus évidente qu'on peut attendre d'un tel gouvernement.
Christa Malula, directeur des Canal Congo Télévision et Radio Liberté Guémena, est-ce que les médecins de l'Équateur ou des Guémena sont aussi en grève? Je parle des médecins des hôpitaux publics.
Excusez-moi d'abord de dire ce que je vois dans cette histoire. Je pense qu'il n'y a pas de cycle qui soit long que celui de la médecine à l'université. Non seulement que ce cycle est long, mais c'est aussi coupé, vraiment très coupé les études en médecine. La rigueur et la bravoure des formateurs au Congo quant à la formation de médecins sont incontestables. Mais comment vouloir accepter qu'un médecin soit payé en dessous d'un petit ouvrier de la Sonas au FIDAS 2GI de Saint-Jacques qui parfois n'a même pas un certificat du primaire? Il n'existe pas de politique d'emploi dans notre pays, autant qu'il y a absence quasi totale de la politique salariale. Dans quel pays peut-on trouver ces insuffisances? En fait, il n'y a pas des études pour devenir ministre député. Ces ministres députés qui gagnent plus d'un millier de dollars chaque mois, il y a parmi eux qui n'ont même pas un diplôme d'État. Il faut que l'on reconnaisse quand même la valeur des études dans notre pays. Quelqu'un qui a passé 7 ans ou 8 ans à l'université, on les recrute avec un petit salaire de 30 000 francs congolais, avec un petit salaire de 4 000 francs congolais, alors que son collègue qui est devenu ministre touche 7, 8, 9 000 dollars par mois. Vous voyez cet écart-là. Au bout de 10 ans, il va devenir plus malheureux qu'il était étudiant. Et celui qui est ministre va devenir de plus en plus riche. Je pense qu'il faut développer la politique salariale dans notre pays et la politique d'emploi. Il faut que l'on sache qui on peut recruter, sur base de quel diplôme et où est-ce qu'il faut le placer. C'est le plus important. Donc, nous avons le ministre d'emploi, de la prévoyance sociale, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, un ministre qui ne développe pas la politique d'emploi, ni la politique salariale, je ne sais pourquoi on doit le découvrir. Donc, je crois que l'essentiel, c'est là. Donc, le médecin a complètement raison, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il passe à les pauvres frères qui vont mourir inutilement. Ce ne sont pas ces frères. Ils ne sont pas en train de punir le gouvernement congolais, ils sont en train de punir les concitoyens du pays qui meurent dans l'innocence la plus totale.
Merci, Christa Malula. C'est avec vous que nous mettons ça à cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique et Guy Maté qui a réalisé pour vous cette émission. Nous n'oublions pas toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Jean-Claude Toumbakamanga, Samuel Kachat, Alain Roux, sous la coordination de Ben Kabamba. En leur nom, Kelly Nkouté vous dit merci et vous souhaite un excellent week-end sur Radio Okapi.